Un bain de culture qui va vous mettre l'eau à la bouche avec un beau livre consacré à la street food au Maroc. Vous n'avez qu'à fermer les yeux. Du nord au sud, les petits restaurants de rue nous attendent. Des senteurs, un certain art de vivre aussi. À Fès, la clôture du 12e festival de la culture soufie, un festival qui s'est terminé hier soir, mais laisse dans son sillage le secret des parfums. C'était une conférence du maître parfumeur Abdelrazak Ben Shahaban que l'on se fera un plaisir d'écouter. Le jazz aussi du Festival Amnogar, 3e édition, c'est à Agadir. 2 derniers concerts ce soir pour un festival qui aide aussi les jeunes artistes marocains. Bain de culture, c'est parti avec Tina Riwen dans les oreilles. Leur dernier album de Blues Touareg se décline en ce moment en live au gré de leurs concerts. Alors en France, ils étaient au Casino de Paris, c'était cette semaine. Ils seront bientôt en Belgique, notamment à Bruxelles. Rendez-vous aussi en Suède, en Suisse, bien en Grande-Bretagne. Tina Riwen sur Médien avec une tournée qui les emmène en ce moment jusqu'au 15 novembre prochain. Les derniers concerts, c'est en France. Ensuite, il y aura la Belgique, la Suède, la Suisse et enfin la Grande-Bretagne. Un voyage gustatif maintenant au Maroc pour feuilleter ce que l'on appelle un beau livre. Un livre qui nous emmène sur les marchés marocains, ses fruits, ses légumes, ses saveurs. Ces épices, la cuisine du Maroc, celle que l'on déguste sur un petit coin de table au détour d'une rue, des adresses qui valent de l'or. Dans Bain de Culture, voici ce livre, Street Food au Maroc, un livre qui est proposé par Patricia Defevert. Elle est directrice de la maison des éditions Langage du Sud.
Bain de culture avec Florence Blanc.
Vous êtes avec nous donc dans Bain de culture pour parler de ce beau livre qui s'appelle La Street Food au Maroc. On va en parler longuement, c'est comme un menu, on va déguster tout ça. Mais tout d'abord, street food, pourquoi dire street food sur quelque chose qui existe depuis des centaines, voire même des milliers d'années? C'est pour plus coller au présent un langage in?
Bonjour, écoutez, non, pas tout à fait, c'est que c'est vraiment de la street food puisque c'est consommé dans la rue. Comme en Asie, d'ailleurs en Asie du Sud-Est, vous avez beaucoup de nourriture dans la rue. Ça se base effectivement sur les traditions, la gastronomie, et je dirais qu'au Maroc, qui est particulièrement importante, la cuisine marocaine est une des grandes cuisines dans le monde. Et effectivement, tous ces gens qui font de la cuisine dans la rue, dans toutes les régions du Maroc, se servent, c'est de la cuisine populaire, et ils se servent des recettes qui ont été transmises par les grands-mères, les mères, et comme ça, créent un petit business, mais qui, pour certains, est devenu quelque chose de très important. Mais ça se consomme et ça se fabrique dans la rue.
Alors, Patricia Defevert, on va parler de ce travail. C'est un véritable livre, je dirais, reportage, c'est un véritable voyage. Il a fallu, pour vous, choisir donc les endroits. Et aussi, il y a des recettes qui sont particulières au nord comme au sud.
Oui, alors je dirais que c'est un petit peu notre façon de faire, c'est notre marque de fabrique, peut-être la mienne particulièrement. Ça fait 20 ans que je fais du reportage, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, et que j'en fais des livres. Et si vous voulez, dans cet ouvrage qui a été écrit par Julie Carco et Asma Chahedi, nous avons, et Cécile, c'est un livre à six mains, et Cécile Tréal pour les photos, c'est vraiment un livre de reportage. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé partout dans le Maroc, dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le centre. Et nous avons fait comme nous faisons toujours, c'est-à-dire qu'on se trouve toujours en contact sur place, on a l'habitude, hein, on le fait sur plein de sujets, et ensuite, c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que de l'un à l'autre, eh bien, on va voir celui qui fait la meilleure soupe, celui qui fera les meilleures brochettes, celui qui fera, ainsi de suite. Et on est aussi plongé dans un monde qui est très important, qui est le monde des souks. C'était pas très facile, mais on a réussi à trouver des choses très très intéressantes dans les souks hebdomadaires. Donc c'est, je dirais, à la fois une sélection au départ, on a fait des choix, hein, et ensuite beaucoup sur place. Au fil de nos rencontres et aussi de nos découvertes que ce reportage a été fait.
Gets harder and the desert got the blues. I dare you, walk a mile inside our shoes. My brothers are marching 1,000 miles. They all share one dream and a broken smile. Running away from hell straight to the sea. Get on the boat, goes ahead to sea. The Eldorado on the other side.
Midi, bain de culture avec Florence Blanc.
I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. Ube barala, kile koro washi jibi jiki mininji dobli ji. Ali koli jitu bolo angamu so negena. Fache uhamina, mamu so kashira. Halibi angarub neutira. Namahine angamola. Ube sege ube nyanina. Hakebe baula. Now you don't gonna na fila. Namahine angamola. Ube sege ube nyanina. Hakebe baula. Now you don't gonna na fila.
is to walk 100 miles to get water for my people. Is to walk 100 miles to get water, to get water.
Retour à la page dans ce bain de culture, puisque nous feuilletons en ce moment ce livre, très beau livre, hein, La Street Food au Maroc. C'est un ouvrage aux éditions des Langages du Sud, dont Patricia Defever est la directrice. Le Maroc, c'est un pays qu'elle connaît bien. Ce livre nous emmène dans le dédale des petits cafés de rue, la cuisine traditionnelle du nord au sud du pays, et surtout, surtout, à la rencontre de ceux qui la font. La cuisine, c'est aussi, et on l'apprend et on le sait évidemment, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui sont derrière leur petite établie chaque jour, donc pour nous faire vibrer les papilles. Il y a aussi beaucoup de portraits de ces alors cuisiniers, cuisinières, petites mains, mais qui ont visiblement un talent d'or pour nous régaler.
Ce livre, c'est un livre d'abord de rencontres et de voyages, c'est-à-dire que vous avez toutes des portraits, ça j'y tiens énormément et nous y tenons énormément. C'est l'humain. Sans l'humain, on peut rien faire. Dans ce pays, il y a énormément d'hommes et de femmes qui ont des talents, des richesses, et on a voulu les mettre en valeur. Pour une autre raison aussi, c'est que dans toutes ces régions, vous avez beaucoup de jeunes, de femmes ou d'hommes qui, grâce à ça, arrivent à vivre et, je dirais, trouvent une position importante dans leur contexte, dans leur village, au sein de la société. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé là-dessus, mais c'est beaucoup, beaucoup de rencontres. Il y a vraiment des choses, des anecdotes, des gens qui nous ont invités, on a partagé. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, qui fait aussi la richesse de cet ouvrage.
Alors, c'est aussi un ouvrage pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas le Maroc, qui a envie de découvrir. Ce sont des adresses, ce sont des plats. On passe par les sardines, les tagines, crêpes, pâtisseries, le sud, le nord. C'est aussi une espèce de caverne d'Ali Baba pour avoir des bonnes adresses.
Oui, on y a pensé. On a pensé, à plusieurs choses. C'est aussi ce qui a convaincu. Nous avons un grand mécène, une petite entreprise qui fait du sucre au Maroc. Il nous a aidés. Ce qui les a convaincus aussi, je dirais, c'est cette idée de montrer à la fois cette découverte. Le Maroc est un pays touristique où beaucoup de gens viennent. Et donc, la gastronomie est une de ses richesses. Et c'est quand on se promène, c'est important de savoir où on peut prendre, manger dans la rue. Donc ça, c'était un de nos vecteurs. La deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est qu'on a voulu montrer aussi la richesse et la diversité de ces terroirs. C'est-à-dire que le Maroc du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce sont des paysages, ce sont des terroirs différents, ça veut du désert à la campagne, à la mer, à la Méditerranée, à l'océan, au sable, dans le sud, et puis jusque la pointe du Sahara quand vous allez à Darla.
Alors justement, on mange différemment dans la rue entre Darla et nous au nord à Tanger.
Bien sûr, bien sûr. À Darla, vous mangez beaucoup de dromadaires, déjà. Beaucoup. Vous avez du lait de chamel, c'est complètement différent. À Tanger, vous avez du poisson, vous avez d'autres spécialités. C'est vraiment complètement différent. Les brochettes, on les retrouve un peu partout, faites un petit peu de différentes façons suivant les régions, mais on les retrouve partout. Mais c'est vrai que ce qu'on retrouve partout aussi, c'est le couscous, mais complètement différent.
Et le tagine aussi.
Et le tagine. Et donc ça, c'est vraiment tout le charme, je dirais, de ce pays. Et dans ce livre, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a fait une présentation il y a deux jours, et les gens me disaient, quand je l'ai ouvert, j'avais envie de manger. Et la Randy qui m'a accompagné disait, je retournais à la cuisine parce que j'avais faim après avoir regardé le livre.
Donc, et pari gagné. Par rapport à la nourriture, justement, à ces merveilles marocaines, qu'est-ce que vous avez appris en plus, vous qui êtes vraiment adopté par le Maroc, vous aimez le Maroc, qu'est-ce que vous avez appris en plus par la cuisine, ce voyage culinaire?
Mais ce que j'ai appris, moi, c'est le côté... Enfin, j'avais conscience de ça, parce que quand on fait beaucoup de reportages, on mange dans la rue, on mange du street food. Et j'ai toujours très bien mangé, ce qui nous a aussi donné... Julie étant une des grandes voyageuses, c'est ce qui nous a donné envie de faire ce livre. Mais si vous voulez, moi, ce que j'ai appris par rapport à ça en plus, c'est le côté social. c'est que j'en avais conscience, mais pas suffisamment conscience. C'est-à-dire que à travers cette activité-là, il y a un vecteur de développement très important dans les régions. C'est un ancrage social et c'est un ancrage de la tradition. Si le Maroc est un pays où il est important, vous avez des, je dirais qu'au même titre que on classe patrimoine de l'UNESCO un certain nombre de choses, dont de l'architecture, eh bien la cuisine est un patrimoine. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans ce reportage. La cuisine est un patrimoine, c'est une richesse qu'on se transmet et dont on peut faire quelque chose au-delà de se régaler. C'est le partage aussi. Et ce pays, c'est aussi le pays où on partage autour d'un tagine. Donc ça, c'est très important.
Médien, un dimanche en cuisine avec ce beau livre sur la cuisine marocaine traditionnelle que l'on peut déguster au coin de la rue, la street food au Maroc, aux éditions Langage du Sud. C'est un livre qui vient de paraître. Patricia Defever, donc Street Food au Maroc, que vous éditez à Langage du Sud, c'est votre maison d'édition. Vous aimez les beaux livres, vous nous le prouvez. Alors la liste est longue, hein, je dois dire, puisque vous avez par exemple Esprit de Fès, Lumière africaine, Lumière marocaine. Vous êtes tombée amoureuse du Maroc et vous avez envie d'en parler. Ce sont des beaux livres qu'on peut trouver chez vous. Ça marche bien en ce moment.
Oui, alors je dirais que vous avez raison, que c'est parti d'une passion pour ce pays, d'une passion et d'un véritable ancrage aujourd'hui, et de la volonté et de l'envie de toujours montrer plus toute la découverte de ses richesses et de son patrimoine. Ensuite, oui, comme vous dites, ça marche bien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ouvrages, mais on travaille aussi sur le Maroc, mais maintenant sur l'Afrique, puisqu'on a édité Génération africaine, Lumière africaine, et que nous avons d'autres titres qui partent à la découverte des artistes contemporains africains. Et après, sur le monde, puisque c'est là sort dans quelques jours présenté, la grande vitesse dans le monde. Qui fait
sur les
la
trains,
grande vitesse
alors.
Au Maroc.
Ah, d'accord,
c'est
oui.
C'est un voyage autour du monde en grande vitesse.
D'accord.
Okay. Voilà. Donc, oui, ça s'appelle c'est... High Speed in the World, puisque c'est édité, pas simplement en français, mais aussi en anglais, et diffusé dans le monde entier.
Ça veut dire que chaque fois qu'on vous parle d'un livre qui est en train de sortir, vous, vous travaillez sur quelque chose qui est déjà en train de se faire en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres livres sur le Maroc, en tout cas l'Afrique, qui sont prévus dans les mois qui viennent avec vous ?
On a un livre sur l'eau qui sera présenté le 21 novembre, donc c'est bientôt, on va bientôt lancer l'information, et un livre sur 100 ans de voyage au Maroc, début décembre, qui raconte l'épopée du développement du transport en car au Maroc, donc depuis 100 ans, avec vraiment, c'est vraiment une épopée au travers d'un carnet de voyage.
Bon, bah écoutez, il va falloir faire de la place sur nos bibliothèques pour engranger tout cela. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau livre, le Street Food au Maroc. Vous le disiez, les images sont magnifiques et c'est vrai que ça donne envie de manger. C'est édité au langage du Sud. Merci Patricia Defever.
Merci infiniment.
Sur Médien, voilà, petit tour hein, sur les rayonnages des éditions Langage du Sud, les propositions de découverte, de voyage olfactif aussi, la street food au Maroc qui vient de paraître, mais aussi des beaux livres, comme on les appelle, les beaux livres sur l'art en Afrique ou le design. Bref, il y a de quoi faire. Je vous souhaite un excellent week-end.
Médien, bain de culture avec Florence Blanc.
Sur Médien, la fin du Festival de la culture soufie à Fès. C'était la 12e édition. C'était hier soir au parc Jansbil, une création artistique qui s'appelle tout simplement Le langage secret des fleurs et des parfums. Des artistes turcs et iraniens, il y a eu aussi les derviches tourneurs pour cette création. Le parfum, justement, le secret des parfums, son importance aussi dans la culture soufie, dans un certain art de vivre. Eh bien, il en a été question pendant ce festival de la culture soufie avec Abdelrazak Ben Shahaban. Il est maître parfumeur. Il a donné une conférence sur le secret aussi des parfums, un secret qu'il connaît bien. Abdelrazak Ben Shahaban est à l'origine du musée du parfum à Marrakech où chacun, petit et grand, est accueilli pour découvrir cet univers mais aussi créer, si l'on veut, sa propre fragrance. Nous allons passer un petit moment avec lui, sa passion en fait, il en a fait son métier et surtout une philosophie de vie après une enfance où il s'échappait dans les jardins.
Midi, hein, bain de culture avec Florence Blanc.
Ma mère avait hérité de sa mère l'art de soigner par les plantes et une connaissance très approfondie des plantes et qui dit plantes dit aussi l'extraction de certaines essences, notamment, moi je me souviens de mon enfance, dans la cour de notre maison se transformait en cour de merveilles. Au mois de mars, on faisait la distillation de l'eau de fleurs d'oranger et au mois d'avril, au mois de mai, on faisait l'extraction de l'eau de rose. Et mon oncle avait des champs de roses. Donc j'ai vécu dans cette ambiance côté mère. Les parents de côté de mon père étaient des gens pauvres, vivaient dans une campagne aride, mais avaient des petits champs. Et donc je sortais, j'avais l'occasion, à l'occasion de vacances scolaires, de sortir de ce cadre un peu coincé de la bourgeoisie et d'aller à la campagne et de pouvoir me rouler par terre, dans l'herbe, jouer avec les bergers. C'est tout ce qui m'était interdit en ville m'était autorisé chez mes parents paternels à la campagne. Et donc j'ai vécu dans les plantes. Et c'est tout naturellement que j'ai fait des études à l'université. J'avais choisi les plantes. Et à l'époque, je n'avais pas de bourse. Et le Maroc ne donnait pas de bourse pour faire des études artistiques. Et j'ai pris ce qui se présentait avec une bourse. Et c'était par hasard de la biologie et ensuite la botanique. Mais je suis allé très loin jusqu'à faire 2 doctorats en botanique. Et puis je suis revenu à la nature après. Je suis devenu jardinier tout simplement après avoir fait 2 doctorats à l'université. Je suis redevenu jardinier. Et c'est en tant que jardinier que je suis devenu parfumeur.
fast, the magic spell you cast. This is Love and Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see Love and Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me.
C'est grâce au parfum que j'ai connu ce qu'il y a derrière les feuilles, ce qu'il y a derrière le contenu des fleurs, etc. Et ça, c'est grâce au métier de parfumeur que j'ai découvert. J'ai changé complètement de regard sur le plante, qu'il y avait un mystère qui était l'odeur. Mais comment ça fonctionnait, comment on peut la capter, je ne savais pas. Il fallait passer par des études de chimie, de parfumerie, pour pouvoir capter l'âme des fleurs et les transformer en parfum. On a un sens qui s'appelle l'odorat. Et ça, c'est un acquis, c'est de la biologie. Mais on a aussi l'homme par rapport, comparé aux animaux, chez l'homme il y a l'hédonisme. Et l'hédonisme, c'est culturel, c'est la perception qu'on a du parfum. Donc comme on est hédoniste, on a une perception du parfum selon les cultures, selon les peuples, selon les périodes historiques, selon les modes, selon les personnes. Et donc deux personnes devant une rose ne vont pas la sentir de la même manière.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where.
Avec Florence Blanc.
Il y a des époques, avec le recul, on sait qu'il y avait des modes. Et puis aujourd'hui, dans une famille, le parfum de la grand-mère n'est pas celui de la mère, n'est pas celui de la fille, n'est pas celui de la jeune fille. Il y a des modes, il y a des époques, le parfum évolue de la même manière. C'est culturel, c'est tout à fait un produit culturel. Et tous les produits culturels ont évolué, la musique, la peinture, la sculpture. Il y a des choses has-been, et puis il y a des choses modernes, et puis il y a des choses authentiques, mais il y a quelque chose de très fort dans tous les domaines. Il y a certains produits qui traversent l'histoire de l'humanité et qui auront toujours de la valeur. L'encens est quelque chose de très fort dans l'humanité, parce que c'est finalement l'encens qui nous a reliés au ciel au début. Et nous avons, quelles que soient les époques, vous mettez de l'encens, les gens, il y a une sacralité, c'est un parfum sacré, et la sacralité a traversé l'humanité, quel que soit l'avancement technologique de l'humanité, la sacralité sera là.
Abderrazak Ben Shahaban, maître parfumeur qui veut faire partager cette passion, il a donc l'idée de monter le musée du parfum à Marrakech. Mais attention, pas n'importe quel musée.
Le musée, généralement, les musées, on va visiter le musée pour visiter les collections. Moi, j'ai trouvé que c'est insuffisant. J'aime bien vivre une expérience. Et donc, on a, après la visite du musée, c'est une exposition didactique sur les différentes manières de transformation des plantes en parfums, toutes les techniques de la parfumerie, bon, c'est bien. Mais je me suis dit qu'il faut qu'à la fin, le public vive une expérience. Et le public, chez nous, enfant ou adulte, peut vivre l'expérience de faire son propre parfum. C'est comme si dans un musée de peinture, à la fin, on vous donne une toile vierge, des pinceaux et de la couleur, et on vous demande, bah, allez-y, faites vos propres tableaux. Et vous pouvez partir avec. Donc nous, on a fait la même chose. Les gens, après avoir découvert l'univers de la parfumerie, peuvent se mettre à l'orgue à parfum et composer leur parfum, à l'aide bien sûr de nos assistantes, et ils peuvent composer leur propre parfum et partir avec. La personne, quand il se met en face d'un orgue à parfum où il a une cinquantaine, une centaine de fragrances, les gens choisissent vraiment, savent ce qu'ils veulent. En matière de parfum, je n'ai jamais vu quelqu'un se tromper sur ses choix. Quand il vient, son voisin n'est peut-être pas d'accord, mais je parle de la personne elle-même. La personne elle-même sait exactement ce qu'il fait. Il se fie à sa mémoire olfactive se réveille. Il prend les fragrances qui ont marqué toutes les étapes de sa vie. Et c'est finalement le résumé d'une vie olfactive qu'il traduit dans sa propre création.
Alors les enfants, pour faire un parfum, il faut des huiles essentielles. Vous allez les découvrir. Vous allez sentir et me dire ce que c'est. Alors c'est quoi ?
C'est du jasmin.
Non, c'est du mimosa.
Mimosa. Chaque semaine, les enfants du quartier, parce que c'est un quartier où il n'y a pas assez d'animation culturelle, il n'y a pas de maison des jeunes pour l'instant, et les enfants viennent ici pour apprendre à faire le dessin, le recyclage du bois, du plastique, et faire de la photographie. Et aujourd'hui, notre atelier tourne autour de la création du parfum.
Très bien. Enlève juste ton doigt et le liquide va descendre. Très bien. Maintenant, on va découvrir le parfum qu'on vient de créer.
Ce parfum est très différent de ceux de la grande distribution. C'est une première expérience pour moi et j'ai appris beaucoup de choses. C'était super.
Alors, quel nom on va donner à ce parfum ?
Échappé
B.
Échappé B.
Échappé belle. Bon, voilà le chapé belle pour ta maman. Ça va leur ouvrir leur esprit. Et c'est la meilleure façon de bâtir la jeunesse de demain et les hommes de demain. C'est à cet âge qu'il faut les sensibiliser à la beauté, à l'amour de leur prochain et à une très belle ouverture sur leur univers.
Abdelrazak Ben Shahaban sur Medi 1, ça a été un vrai plaisir de passer un petit moment avec lui dans ce bain de culture. Il est à l'origine du musée du parfum à Marrakech, où vous l'avez entendu, vous pouvez, comme ses enfants, aller là-bas, créer votre propre fragrance. Le parfum, c'était aussi une conférence sur les secrets du parfum. C'était pendant ces journées dédiées à la culture soufie à Fès, un certain art de vivre avec ses ateliers aussi d'éveil olfactif. Si vous avez envie de vous précipiter dans ce musée, eh bien tous les renseignements, c'est sur le site internet Musée du Parfum à Marrakech. Woman, 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 woman.
happen to for me. You think I'm like the other ones? Well, my cage is a weapon, it's perfect for me. It's the one suit they seem to not see. I'm a woman of my word, not having you heard. My word's the only thing I've ever needed. Truly need woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman.
De culture, le festival.
Le festival Amnogar Jazz est de retour. C'est une troisième édition et c'est jusqu'à ce soir à Agadir. Son objectif, c'est de promouvoir et célébrer le jazz avec un grand J en majuscule dans toute sa richesse, sa diversité. À Agadir, bien sûr, et dans sa région proche. Amnogar Jazz, c'est un festival international. De nombreux invités qui viennent de loin. C'est aussi la façon aussi de promouvoir le jazz comme musique, comme état d'esprit. Amnogar Jazz entend apporter sa contribution à la formation aussi de techniciens du spectacle ainsi qu'à l'accompagnement de jeunes musiciens de jazz marocains qui souhaitent se professionnaliser. On va parler de tout ça avec le directeur artistique de ce festival, il s'appelle Franck Paty.
Midi avec Florence Blanc.
Et dans Bain de Culture, Franck Patillot revient tout d'abord sur les nombreux festivals au Maroc, du nord au sud, qui s'appellent des festivals de jazz. Alors, petite rectification sympathique d'un puriste.
Alors, sans vouloir offenser personne, je ne suis pas certain qu'il y ait plusieurs festivals de jazz au Maroc. C'est pas tellement une histoire de puriste. C'est l'évolution peut-être le choix de certaines structures et événements. Je me souviens que il y a un peu plus d'un an, le directeur artistique du festival de Casablanca avait répondu aux questions des médias en disant que son festival n'était plus un festival de jazz, mais un festival de musique du monde, qui est quand même la tendance un petit peu partout, hein, pas que le Maroc, dans le monde et tout. Peut-être que ce qui fait la force et l'identité de l'Amnogar Jazz, c'est justement de s'inscrire dans une programmation artistique qui est profondément jazz au pluriel, mais jazz et pas musique du monde. Peut-être que c'est certainement son identité, oui. On commencera avec le lauréat de notre tremplin, l'Amsli Amaïnou, donc le lauréat 2019, Ayman Kocheïna, qui est un jeune guitariste marocain en quintette. Donc je rappelle que l'Amsli Amaïnou, ce n'est pas un concours, hein, c'est un programme d'accompagnement des jeunes artistes marocains de jazz vers une voie de pré-professionnalisation, en partenariat avec l'ambassade de France et notre partenaire français, Jazz à l'étage.
Et ce dimanche, c'est donc la clôture de ce festival, troisième du nom, Amnogar Jazz à Agadir. Deux concerts, 19h30, Eric Lénini Trio. Et un petit peu plus tard, vous aurez droit à Enzo Carniel Quartet. Clap de fin pour ce bain de culture avec évidemment ces notes de jazz dans les oreilles. Je vous souhaite un excellent week-end et si vous avez envie d'écouter du jazz, du rock and roll, du blues, de la musique soufie, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez.